s'est dit prêt à augmenter ses livraisons de gaz à l'Europe, y compris via l'Ukraine, et donc prêt à stabiliser le marché de l'énergie dans un contexte de flambée des cours et de pénurie. Ce matin, le prix du mégawattheure de gaz naturel côté Amsterdam a signé un nouveau record à 162 euros. C'est le double du prix du baril de Brent de la mer du Nord. Ce soir, ce prix du mégawattheure est retombé à 108 euros, en baisse de 7%. C'était Céline Pentex, investir pour RFI.
Merci Céline Pentex et merci à vous d'écouter RFI. Il est 18h10 ici à Paris, restez avec nous.
Radio G. 101.5 FM.
Le Grand Ouest Festival.
Du 24 septembre au 16 octobre 2021, le Centre Dramatique National Le Quai, à Angers, ouvre sa saison avec un tout nouveau rendez-vous, le Go Festival.
Après de longs mois de silence, le CDN vous invite à trembler ensemble avec ce concentré de spectacles vivants et vivifiants.
23 propositions de théâtre,
cirque,
danse,
musique
et autres performances présentées au Quai et dans 8 autres lieux de l'agglomération angevine.
Le Grand Ouest Festival, première édition du 24 septembre au 16 octobre 2021.
Informations et réservations sur lequai-angers.eu.
h 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Du 4 au 17 octobre, ce sont les semaines d'information sur la santé mentale. Un événement national qui est organisé à Angers par un collectif angevin. Et à ce titre, Topette reçoit ses membres ce soir. Bonjour à tous, dans les micros, ce sera mieux.
Bonjour.
Bonsoir. Bonsoir, bonjour, on a des variantes différentes. Donc, alors si on fait le tour de la table, Bérangère Oberdoff de la direction santé publique Angers, Adrien Jacot du dispositif de soins pour adolescents DSA, Émilie Ganard d'Inclusion 49 et Madame Dufour, membre de l'UNAF, Union Nationale des Familles et amie des malades psychiques. C'est UNAF, c'est plus court.
Oui.
Oui. Okay. On a également avec nous Julien, notre chroniqueur volant. Ça va ?
Ça va très bien.
Donc toi, tu vas nous quitter en cours d'émission, c'est une ça. Fois que le plus gros sera passé, que le plus intéressant sera dit. Nous verrons ensemble ce que proposent ces semaines d'information. Nous ferons aussi le point sur les stigmatisations autour des maladies psychiques. En effet, le thème pour 2021 est « Pour ma santé mentale, respectons mes droits ». En fin d'émission, et comme chaque mercredi, on écoutera la Minute des Dalleux avec notre partenaire, la Dalle Angevine. Mais avant tout ça, je vais lever la piste correspondante. Alice va nous présenter un article paru dans le dernier numéro d'Angers Ma Ville, aujourd'hui même. Et pour réagir à cette émission en direct, c'est sur mon Insta ou Twitter à PD Radio G.
Cette semaine, je vous invite à découvrir l'exposition La Vallée des Rois au château du Plessis-Massé. Déjà parce que j'aime beaucoup cet endroit et qu'il propose cette fois une exposition de deux artistes locaux, Dupin et Duclos, qui viennent du street art, mais qui ont depuis connu quelques expositions dans des galeries comme la galerie LTK à Angers. Ils nous emmènent dans leur univers moyenâgeux pour une balade entre château et village. Leur style enfantin plaît aussi bien aux jeunes qu'à ceux qui ont gardé leur âme d'enfant. C'est jusqu'au 7 novembre, gratuit avec le prix du billet de la visite du château. Alors allez-y, foncez, toutes les infos sont à retrouver sur le site du château du Plessis-Massé.
Alors nos invités de ce soir vous proposent des capsules d'informations autour de ces semaines de la santé mentale justement. Et aujourd'hui, c'est celle de Bérangère, on a la chance d'ailleurs de l'avoir avec nous dans ce studio. On écoute.
Le droit à l'habitat est un droit fondamental affirmé dans la loi. Pourtant, se loger reste une étape importante de la vie et parfois difficile, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Se loger, c'est à la fois avoir sa résidence permanente ou provisoire quelque part et c'est aussi trouver sa place. Occuper une place suffisamment permanente, c'est un enjeu dans la construction psychologique de chacun d'entre nous. Être porteur de troubles psychiques peut impacter la capacité à habiter un logement. Pouvoir accéder à un logement, c'est prendre des repères, une sécurité, des habitudes qui structurent notre quotidien. Avoir une adresse permet d'accéder à toutes les démarches administratives. c'est un premier pas vers l'insertion sociale et professionnelle. Pour formuler une demande liée au logement, il faut avoir les ressources psychiques nécessaires pour solliciter de l'aide. Le handicap psychique peut avoir des répercussions sur la capacité à accéder à un logement ou à s'y maintenir. Par exemple, une personne handicapée psychique peut avoir du mal à gérer seule l'entretien du logement. Elle peut s'isoler ou se faire envahir par d'autres personnes. Elle peut aussi avoir du mal à gérer les relations de voisinage. Ainsi, une personne malade psychique peut avoir besoin d'être accompagnée pour se maintenir dans son logement ou accéder à un logement. Il existe des formes d'habitat très différentes comme les logements individuels, les structures semi-collectives ou encore des dispositifs d'accueil spécifiques aux personnes présentant des troubles psychiques. Cette offre, diversifiée, permet de proposer des réponses adaptées aux capacités, aux besoins et aux projets des personnes. Pour cela, il existe des partenariats soutenus entre les acteurs du soin, du social et du médico-social. En effet, habiter ne se résume pas à avoir un toit, mais c'est investir un lieu, un espace à soi, intégré dans la cité et qui répond aux besoins de chacun.
Plus d'informations sur le Facebook SISM49, SISM on dit également, ou tout simplement maintenant dans Topette sur Radio G.
L'invité de Topette sur Radio G.
Les semaines d'information sur la santé mentale sont donc 2 semaines. Cette année, c'est du 4 au 17 octobre avec pour thème « Pour ma santé mentale, respectons mes droits ». Alors déjà, peut-être que les membres autour de cette table, les membres du collectif Angevin, peuvent se présenter. Si on commençait par vous, Madame Oberdorf, Bérangère.
Alors bonsoir, je m'appelle Bérangère Oberdorf, effectivement, et je suis psychologue à la direction santé publique à la mairie d'Angers. J'y anime un service, le service souffrance psychique, précarité, autonomie, qui est une petite équipe composée d'un infirmier, d'un médecin, d'une collègue assistante et de moi-même, pour à la fois accueillir les personnes en souffrance psychique ou en précarité des liens, et de l'autre côté, travailler à la prévention et à la promotion de la santé mentale.
Et juste à côté de vous, Émilie Ganard, donc, qui est membre de 2 associations, Inclusion 49 et Oxygène, c'est ça ?
Oui, absolument.
Est-ce que tu peux, très rapidement, parce qu'on va revenir dessus après, mais présenter du coup le...
Alors, Inclusion 49 est une association loi 1901 qui a pour objectif de sensibiliser le grand public à la question de la santé mentale et également de mélanger les personnes en situation de souffrance psychique avec le grand public pour plus d'inclusion. Et Oxygène aussi est une autre association, ça s'appelle un groupe d'entraide mutuelle qui se situe à Angers.
C'est pour ça que c'est aussi GEM.
Voilà, c'est un GEM, un groupe d'entraide mutuelle. Voilà, c'est une association de personnes concernées par la souffrance psychique qui porte l'association, se rencontre, partage des moments de convivialité, des loisirs. Ces 2 associations ont vraiment pour objectif de recréer du lien social et d'aller à la rencontre de l'extérieur et des autres.
Et on en reparlera du coup en 3e partie d'émission. En face de moi sur cette table, Adrien Jacot, bonjour.
Bonjour.
Alors psychologue, c'est ça ?
Presque. Psychiatre.
Psychiatre, voilà, il y a une différence quand même.
Elle-même.
Pour les adolescents, allez-y.
Oui, c'est ça. Donc, je travaille au département de soins pour adolescents, qui est le service d'accueil, de consultation, aussi de groupe thérapeutique, destiné aux adolescents de 14 à 18 ans, pour le CESAM, à Angers.
Et ce sera en 2e partie d'émission qu'on s'intéressera à vous. Juste à côté de vous, Madame Françoise Dufour, c'est ça ?
C'est ça.
Alors vous êtes du coup membre de... comment c'est, le nom
alors,
c'est
je
précisément ?
Je suis membre de l'UNAFAM, c'est voilà. L'Union Nationale des Amis des Familles qui ont des proches qui ont des problèmes psychiques. Hein, donc ça concerne les enfants, les ados et les adultes. Je représente 200 personnes du Maine-et-Loire, 200 adhérents, et nous avons 25 bénévoles qui sont là pour entraider, où la principale mission est l'entraide, le soutien et de briser l'isolement des familles aussi.
Et on en reparlera tout à l'heure, bien évidemment. Julien, déjà, première question pour toi. Tu connaissais ces sigles, ces institutions, ces associations ?
Non, pas du tout. C'est la première fois que j'en entends parler.
Et les semaines d'information sur la santé mentale ?
Et non plus, justement, on en parlait juste avant l'émission. Donc c'est bien de pouvoir en parler là à la radio pour l'évoquer au grand public.
Très bien. Et bien justement, première question, qu'est-ce que c'est ces semaines d'information sur la santé mentale ? Bérangère, je pense qu'elle a envie de répondre à cette question.
Alors ce sont des semaines qui ont pour objectif d'une part de s'adresser effectivement au grand public pour sensibiliser le grand public sur les réalités en lien avec la santé mentale, les enjeux de santé mentale, les aider à identifier, à mieux connaître les lieux ressources quand ils rencontrent, quand chacun d'entre nous peut rencontrer une difficulté d'ordre psychique, sensibiliser aussi à la question de la stigmatisation et par là même lutter contre la stigmatisation des personnes qui souffrent de troubles psychiques. Voilà, faire connaître les lieux, les moyens, les personnes qui peuvent apporter un soutien, informer à partir d'un thème annuel. Et effectivement, ce thème annuel qui est choisi nationalement et que, en général, au niveau du collectif 49, collectif Angevin, on retient ce thème annuel cette année, donc santé mentale, pour ma santé mentale, respectons mes droits.
Alors, on a parlé de stigmatisation. Déjà, on va mettre une distinction précise. Je crois qu'il y a une distinction, en tout cas, entre handicap mental et psychique.
Tout à fait. Le handicap mental, c'est un handicap qui généralement est porté par la personne dès les premiers moments de sa vie. Le handicap psychique, il est plus, il peut se faire jour au décours des troubles psychiques et en général de manière durable, mais ne pas se faire sentir non plus dans tous les moments de la vie de la personne. Le handicap psychique, il n'inclut pas d'atteinte cognitive, d'atteinte intellectuelle, alors que, au contraire, le handicap mental, généralement, s'accompagne effectivement d'une déficience intellectuelle.
Alors ça, c'est très intéressant. Julien, j'imagine que tu n'avais pas la distinction en tête, par exemple.
Non, justement, si tu ne l'avais pas posé, PB, c'était une question que j'avais. Donc, enfin, de ce que je retiens de ce que tu dis, est-ce qu'on peut dire que le handicap psychique, ça intervient plus au cours de sa vie, peut-être plus en société, par rapport au handicap mental qui peut intervenir dès les premiers jours en fait, de sa vie? Est-ce que moi, c'est un peu ce que j'entends dans ce que tu dis? Tu me dis si je me trompe.
C'est ça. Ce qu'on peut dire, c'est que quelqu'un qui peut souffrir de troubles psychiques, ça peut être variable en durée et en intensité. Et quand c'est très durable et très intense, ça peut venir effectivement impacter la capacité de la personne à s'adapter dans un certain nombre de dimensions de sa vie quotidienne et du coup générer une situation de handicap.
D'accord.
Madame Dufour.
Par rapport aux troubles psychiques, oui, je rejoins un peu ce que dit Bérangère concernée par les troubles psychiques. C'est vrai que ça survient parfois très brutalement à différents stades. Ça peut être dans l'enfance, ça peut être dans l'adolescence, ça peut être dans l'âge adulte. Et c'est vrai que c'est un chaos pour les familles quand ça nous tombe sur la tête. Voilà.
Bon, déjà de base, voilà, c'est important de récapituler, de bien faire la distinction, d'informer. Justement, c'est le but de ces semaines d'information sur la santé mentale 49, puisque c'est un événement national qui est porté dans le 49 par le collectif ici présent. Quelles actions, comment allez-vous informer justement les gens et qui, Bérangère?
Alors, on a coutume, en général, quand rien ne vient perturber nos habitudes, bien sûr, par exemple, on a coutume d'ouvrir ces semaines, par exemple, avec un ciné-débat aux 400 coups, souvent, qui est une belle occasion avec le média culturel et cinématographique d'ouvrir la discussion sur des questions en lien avec la santé mentale et d'être vraiment connecté au grand public à cette occasion-là. On peut proposer aussi une action de lutte contre la stigmatisation qui est la Bibliothèque des livres vivants. Cette année, il y en a une de proposée à la Roseraie, à la bibliothèque précisément de la Roseraie. Donc ça, c'est une autre façon d'aller à la rencontre du grand public dans les bibliothèques.
Qu'est-ce que c'est, Julien, la Bibliothèque des livres vivants?
C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, Pierre-Benoît.
Comment ça se passe, en fait? Qu'est-ce qui...
Alors, une bibliothèque des livres vivants, en fait, ça part d'une expérience danoise qui cherchait à lutter contre les idées reçues autour des conflits ethniques, par exemple. Et progressivement, la santé mentale s'est emparée de ce concept. Il s'agit, en fait, de se mettre en situation quand on est porteur de troubles psychique ou proche d'un malade psychique ou un professionnel qui accompagne les personnes en situation de trouble psychique, de se raconter, de raconter son savoir sur cette expérience-là. En l'écrivant et en s'offrant en lecture à un grand public qui va venir écouter cette page de vie, qu'on soit en situation de souffrance psychique, en situation de proche d'un malade ou professionnel par exemple. Alors ça, des rencontres.
C'est presque une immersion du coup, plus qu'une information, on se met dans la peau. Fait. Pour compléter du coup les actions, donc je crois qu'on a parlé de la lettre numérique du coup.
On n'a pas parlé de la lettre numérique effectivement cette année. Puisque le Covid est venu nous perturber et qu'on n'est pas très nombreux à organiser ces semaines, on n'avait pas envie de prendre le risque que des rencontres présentielles qui demandent aussi du travail, si on veut qu'elles soient chouettes, soient annulées. Donc on a préféré retenir une idée qui est perfectible, qui n'est pas parfaite, parce que le principe d'une lettre numérique, c'est difficile de la rendre accessible justement au grand public par le fait même du média numérique. Pour autant, c'est une édition spéciale de la lettre du contrat local de santé qui s'adresse à un large public qu'on a essayé de diffuser au maximum dans nos réseaux, aux élus, on a invité les centres sociaux par exemple à la relayer sur leur site pour parler des lieux ressources angevins dans le champ de la santé mentale, du droit au logement, du droit au loisir, du droit à la santé quand on a des troubles psychiques, et puis voilà, faire connaître aussi à tous ceux qui auraient envie de parler de santé mentale, pourquoi pas dans les écoles, voilà, quels que soient les lieux, d'avoir des outils et des ressources pour pouvoir le faire en connaissance de cause.
Merci Bérangère. Alors on va s'intéresser encore plus à ces questions, ces informations sur la santé mentale et psychique. On va d'abord faire une première pause musicale avec Hypnotized de Purple Disco Machine. Feel buried alive. This city is airtight. Suffocating, lonely in the crowds. I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming into space to drown them out. I fell down so low, found nowhere to go, but I know you wait for me. You wait for me. So far out of sight, sucked into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Cause I've been hypnotized by the lies. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taking time to realize. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. So hold me tight, I just wanna fade out. Somewhere we can shut the world away. I'm ready to hide, far from the fallout. They won't find us in the paradise we'll make. I fell down so low, found nowhere to go. But I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, sucked into the white. But I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Cause I've been hypnotized by the lies. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize. But I'm coming home, I'm sur Radio G avec Purple Disco Machine, donc toujours à l'écoute de Topette sur le 101.5 FM. Aujourd'hui, on s'intéresse aux semaines d'information sur la santé mentale 49. Et du coup, c'est pour ça que nous recevons le collectif qui a organisé cet événement autour d'Angers. D'ailleurs, c'est que sur Angers ou c'est dans le Maine-et-Loire total?
C'est sur le point de Maine-et-Loire. Il y a sur Cholet aussi des actions et puis aussi sur Saumur.
Ok, donc c'est dans tout le Maine-et-Loire.
Et sur Poincé, hein. Quelque chose sur Poincé, je crois. Oui, Segré.
Et quelque chose sur Poincé. On va donner la parole à quelqu'un qui ne l'a pas trop prise pour l'instant. Donc c'est Adrien Jacot. Vous êtes psychiatre pour les adolescents au sein du dispositif. Alors c'est le dispositif.
Département.
J'y tiens. Des soins
pas
pour
trop, mais...
adolescents. C'est ça?
Exactement.
Alors ça consiste en quoi, ce DSA?
Eh bien, c'est un centre de consultation pour les adolescents, donc comme je le disais, entre 14 et 18 ans. Ça fait partie du CESAM, du Centre de Santé Mentale Angevin. Donc c'est une activité psychiatrique, et en ce sens, on accueille donc des adolescents qui souffrent de troubles psychiques, plus ou moins constitués, plus ou moins chroniques, plus ou moins intenses aussi, et puis on leur propose un accompagnement pour un mieux-être, et puis une meilleure inclusion, puisque c'est ce dont on parle aujourd'hui, et c'est un des chevals de bataille du service, effectivement.
Alors, comment détecter un adolescent qui a des troubles psychiques, qui est dans une mauvaise position, et qui peut développer justement des symptômes qui vont amener à quelque chose peut-être de plus chronique ou de plus handicapant, puisqu'on est quand même là-dessus à la base. Adrien.
C'est véritablement une question complexe, parce que chacun a sa manière d'exprimer une difficulté, et ne pas l'exprimer et la cacher en fait partie. Donc je dirais que la première chose, c'est d'être à l'écoute. Donc c'est important qu'il y ait des endroits où on entende des points relais avant la psychiatrie, j'entends, dans les lieux où... Alors moi, je vais parler un peu de ce que je connais, c'est-à-dire plutôt les jeunes, les mineurs, les adolescents, qui passent une grande partie de leur vie éveillée à l'école. Et donc, par exemple, l'école est un point relais de repérage de difficultés. Alors ça peut aller de la chute des résultats scolaires, à un isolement, une impossibilité aussi à être en classe, à être dans le groupe classe, des angoisses, enfin bref, ça s'exprime de plein de manières, mais l'important c'est
de le détecter, en fait.
Qu'il y ait quelqu'un pour l'entendre, voilà.
Alors ensuite, une fois qu'on l'a détecté, comment on accompagne? Parce qu'il doit y avoir, comme vous dites, c'est difficile déjà de le détecter, mais il peut aussi y avoir des résistances de la part peut-être des enseignants, peut-être des parents, peut-être de l'entourage, peut-être de la personne elle-même. Comment accompagner par la suite?
Là aussi, c'est une vaste question, tellement les situations
c'est
sont...
Que ça pose,
oui, là vous me posez des questions générales, alors que dans le trouble psychique, il est surtout question de singulier et de particulier. Bon, ceci dit, les résistances, ça doit faire partie du savoir-faire des gens dont la profession, c'est d'accueillir les personnes qui souffrent de troubles psychiques, ou d'ailleurs n'importe qui. Et donc, on arrive toujours à trouver un angle qui fait qu'on la mise en confiance. Ben déjà, peut-être n'en pas en faire une question de morale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a ce qui est, il y a ce qui est vrai, ce qu'on ressent à l'intérieur. On ne s'est pas posé la question de ce que c'était la santé mentale. C'est une sorte de rapport qu'il y a entre une intériorité, une vie intérieure, et puis un environnement. Alors, quelqu'un, pour connaître la vie intérieure de quelqu'un, son intériorité, faut qu'il en parle. Et quand il en parle, il faut lui donner du crédit, et pas chercher à tout de suite changer ce qui est dit, ou tout de suite remettre en cause. Peut-être déjà prendre ça comme tel quel, l'accueillir comme ça.
D'où le terme d'accompagnement,
voilà.
Plutôt que de soins.
Et souvent, quand on fait cette démarche-là, on est repéré comme quelqu'un digne de confiance. À partir de là, les choses s'enchaînent pas trop mal. Dans la plupart des cas, après, il y a toujours des exceptions.
Émilie, c'est un petit peu ce qu'on retrouve en termes d'accompagnement dans les GEM, justement, de ne pas voir la personne comme quelqu'un de forcément... de ne pas la stigmatiser, justement, de l'accompagner différemment.
Oui, alors, les GEM sont des associations qui ne sont absolument pas médico-sociales. Il faut le savoir, ce n'est pas un lieu de soins. Évidemment, ça participe à déstigmatiser, à pouvoir être en lien les uns avec les autres, de partager un moment, de pouvoir parler, en fait, sans avoir peur d'être jugé, déjà. C'est la première chose. De retrouver un rythme aussi, par les activités de loisirs, Et voilà, et d'échanger entre pères, entre père aidant en fait. On devient père aidant de par, en fait, on a des savoirs expérientiels de par notre souffrance psychique qu'on échange les uns avec les autres. Et puis dans un second temps, ce qui est important de noter, c'est l'importance du lien social et de l'ouverture. On parle d'inclusion ou d'intégration. L'intégration, ce sont les personnes handicapées qui doivent s'adapter à la société. Nous, on parle d'inclusion, c'est-à-dire que la société favorise et permet à chacun d'avoir une place.
Accepte les personnes telles qu'elles sont,
finalement. Telles qu'elles sont et leur donne une place, voilà.
Julien, sans rentrer dans les... Oui, Adrien Jacot.
Excusez-moi. Que c'est alors évidemment la démarche d'une association, enfin de deux associations comme la vôtre, c'est essentiel parce que tout peut pas. Vous avez insisté dans l'emblée sur c'est pas médicalisé. Moi je trouve oui effectivement tout peut pas être médicalisé dans l'accueil. Il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse société dans le collectif, le lien social et l'inclusion. C'est vrai qu'alors on dit bon bah voilà faut penser l'hétérogénéité ensemble, mais c'est pas une mince affaire. Ça demande de l'énergie, ça demande aussi du pour ceux qui ne sont pas touchés par les perturbations qu'impliquent les troubles psychiques, ça demande quand même aussi de revoir des fois un petit peu leur copie et de sortir un petit peu de leur base. Mais c'est un effort qui est, il me semble, nécessaire si on veut construire un peu d'ensemble, quoi.
Julien, sans rentrer dans ta vie personnelle ou quoi que ce soit, as-tu déjà été confronté à ce genre de situation au lycée, au collège peut-être, puisque là on parlait à la base des adolescents plutôt?
Moi personnellement ou des amis? Bah,
personnellement
à moi,
non, puisque c'est quand même clinique, donc on...
Oui, oui. Là, c'est marrant parce que avant d'en parler, je me serais même pas posé la question. Mais en y repensant, il y a des cas comme ça qui surviennent quand je repense au collège ou même au lycée, et peut-être à l'époque où je sais pas, il y aurait des camarades ou même moi-même ou d'autres personnes. Je pense qu'il y a des moqueries qui sont arrivées parce qu'on n'avait peut-être pas des informations à ce moment-là. On se doutait pas en fait que j'ai un souvenir en mémoire, quelqu'un par exemple qui tapait tout le temps sur la table, et c'était quelque chose, elle faisait des crises comme ça et tapait tout le temps sur la table, et c'est vrai qu'on se moquait à l'époque, mais parce qu'on prenait peut-être pas en compte, peut-être avec l'âge, on avait 15-16 ans, on était jeune, donc on se doutait pas qu'à ce moment-là c'était quelque chose qui était arrivé dans sa vie personnelle qui faisait que c'était pour ça au final qu'elle avait ces crises. Et c'est important de mettre ces choses-là sur la table. Et comme disait Adrien, c'est pas une mince affaire, parce que c'est, au final, c'est un sujet sociétal, c'est un sujet social. Et il faut un appui, il faut une énergie d'énormément de personnes. Donc c'est très compliqué de mettre ça en place. Mais oui, pour répondre à ta question, comme je te disais, il y a cette personne-là qui me revient en tête.
D'où l'intérêt de... Vas-y, Émilie.
Oui, je voulais intervenir parce qu'on parle de troubles psychiques. C'est l'affaire de tous, les troubles psychiques. Tout le monde peut, à un moment donné de sa vie, être en situation de souffrance. On l'a vu lors du Covid, hein, des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes âgées, tout âge, peuvent être dans une situation de précarité ou d'isolement, peuvent ressentir de la difficulté à vivre. Donc on peut parler autant de dépression, ça peut être un burn-out, on en parle beaucoup aujourd'hui, hein. Ça peut être, bien sûr, il y a les psychoses, la bipolarité, la schizophrénie, mais je veux insister sur la question, voilà, que chacun d'entre nous, à un moment
concernés.
Donné, on est tous concernés lors d'un décès, lors d'une rupture dans sa vie, on peut être amené à décompenser et à avoir justement besoin d'aide. Et la question de l'inclusion sociale, c'est aussi ça, c'est que chacun puisse, à un moment de sa vie, s'il est fragile, continuer à garder des liens avec les autres et toujours avoir sa place dans la société.
Françoise Dufour, une volonté de réaction peut-être?
Oui, je voulais ajouter quelque chose par rapport à mon passé, mon expérience, puisque j'étais dans l'enseignement de la maternelle jusqu'au lycée. Et en fait... vous évoquiez tout à l'heure les cas, et c'est vrai que moi j'ai le souvenir quand même de l'enfant qui était super calme, qui ne bougeait pas, qui était presque muet, et puis il y a l'agité, mais parfois le calme était plus préoccupant, le super calme, que l'agité. Et c'est vrai qu'on était au seuil, surtout en maternelle, les dernières années j'ai fait en direction de maternelle, on était au seuil d'être vraiment une vigie pour vraiment repérer l'enfant déjà qui était un petit peu à côté de l'ordinaire, on va dire.
Adrien Jacot, pour revenir, puisque là on revient du coup aux enfants, aux adolescents, est-ce que notre société moderne, très numérique, très réseaux sociaux, développent des caractéristiques propres qui favorisent peut-être l'émergence de troubles psychiques plus fréquents chez les jeunes enfants ou les adolescents. Vaste question encore, je sais.
Ah oui, vous ratissez large avec moi. Je ne sais pas, parce que j'ai vécu que dans une seule société, moi. Donc, c'est compliqué de comparer des choses qu'on n'a pas directement connues. Alors, j'ai connu une société pré-internet, mais à l'époque, j'étais moi-même adolescent, donc je ne sais pas ce que serait mon adolescence maintenant. C'est un petit peu casse-figure de comparer. En plus, on a l'habitude de dire, vous savez, le discours sur les adolescents, il est le même depuis la Grèce antique. On retrouve des trucs sur la génération des adultes qui dit, mais qu'est-ce que c'est que cette génération qui arrive d'adolescents feignants, enfin, vous voyez, tout le tralala. Donc, il y a un discours qui se répète, c'est sûr, de ne pas toujours se reconnaître dans la génération qui va rejoindre votre groupe social, celui des adultes. Donc, les adultes regardent les adolescents. Et il y a toujours une forme de décalage qui se perçoit. Après, qu'il s'appelle numérique ou quoi que ce soit, est-ce que ça produit plus de symptômes? J'en sais rien. Peut-être des symptômes un peu différents. C'est possible que ce ne sont pas les mêmes personnes qui souffrent à ce moment-là. Ce ne pas les mêmes caractères, les mêmes personnalités. Après, le numérique, c'est tout à la fois quelque chose qui peut produire du symptôme, ça peut aussi produire des appuis. Quelqu'un qui peut, comme ça, être dans une anxiété sociale, ça peut être un premier pas vers du lien social. Alors, c'est du lien numérique, virtuel. Ça ne remplace pas totalement, ça ne peut pas être que ça, ça ne peut pas être exclusif. Mais reste que ça peut être un appui à un moment qui peut jouer son rôle. Donc, on ne peut pas critiquer. Nous, dans le service, je vais juste te dire un truc. On a beaucoup investi la question du soin par le numérique, par exemple. C'est quelque chose qui nous intéresse. On a des gens qui sont formés à ça. Et on ne rechigne pas à utiliser les jeux vidéo, à utiliser Internet, à utiliser comme, alors, à la fois une manière d'avoir accès à des jeunes. C'est leur vie, c'est leur centre d'intérêt. On ne va pas faire semblant que c'est pas ça. On ne va pas leur demander, déjà, en franchissant la porte d'un service où on aimerait les rencontrer, de ne plus être eux-mêmes. Donc, on y va sur leur terrain aussi, qui est des fois pas le nôtre. Donc, ça renverse un petit peu le système de savoir, un peu. C'est eux qui savent plus que nous, parfois, sur certaines choses. Et puis, deuxièmement, ça a des vertus, le virtuel, la relation indirecte par l'écran, ça a des vertus pour se rencontrer, pour s'apaiser, pour baisser un peu les enjeux. Donc, moi, je n'ai pas envie de jeter la pierre au numérique, et encore moins, alors, sur les adolescents, parce que je pense que les adultes sont aussi frappés que les jeunes par l'utilisation du numérique.
Merci beaucoup. Voilà, c'est d'où l'intérêt de faire des semaines d'information. Tout le monde veut prendre la parole. On va donner la parole, vous inquiétez pas. On va faire une deuxième pause musicale, quand même, un peu pour digérer toutes ces informations-là. On écoute ces Grise Cornac, décidément.
Amour chien dent, en quel mois fleuris-tu? Décidément, amour chien dent, en quel mois fleuris-tu?
L'écoute de Topette sur Radio G101.5 FM, on s'intéresse pour les semaines d'information sur la santé mentale 49 aux structures qui favorisent l'inclusion des personnes handicapées par une maladie psychique et d'ailleurs qui nous informent sur ces dites maladies psychiques. Alors, Il nous reste deux personnes quand même à qui on va donner la parole, Françoise Dufour et Émilie Ganard. Peut-être Françoise Dufour d'abord, de l'UNAFAM. L'UNAFAM qui est, ne serait-ce que par le sigle, qu'est-ce que ça veut dire ?
Union nationale des familles et des amis qui ont des proches qui ont une maladie psychique, quoi. Ça concerne bien sûr les enfants, les ados et les adultes.
Je voulais
reprendre un petit peu pour vous dire qu'on a parlé un petit peu de notre visibilité. Et l'essentiel pour nous, c'est le point écoute. Et le point écoute, ça se fait par le téléphone que je vais donner, le 02 41 80 47 79. Et donc, nous avons des bénévoles qui sont formés à l'écoute et qui proposent un rendez-vous à la délégation, boulevard du Doyenné, Angers, le numéro 58. Et ensuite, l'émission de l'association, ça va être aussi d'élargir un petit peu, une fois qu'il y a ses contacts, ses accueils. On va proposer aux familles des groupes de parole, il y en a quatre, sur Angers, et même de la méditation qui doit commencer au mois d'octobre. Et ensuite, il y a des réunions de proposer, style café-débat, café-rencontre, convivialité, réunion d'information, partenariat avec le CESAM, souvent, avec des mandataires aussi judiciaires, sur différents thèmes. Voilà.
Donc si je comprends bien, du coup, l'UNAFAM, je vais le faire cette fois, l'Union Nationale des Amis et des Familles de Maladies Psy.
Oui, qui ont des malades psychiques reconnues ou pas, hein, voilà.
Ont comme dénominateur commun le fait d'avoir des proches à eux qui sont atteints par ce qu'on appelle des troubles psychiques, en fait. Donc il y a le numéro de téléphone.
Oui, je voulais.
On peut le redonner peut-être encore une fois.
Je vous redonne parce que c'est important. C'est le premier point finalement d'écoute, qui est le 02 41 80 47 79, qui paraît dans la presse locale, par les infos locales. Mais aussi, on a beaucoup de bénévoles. On a 25 bénévoles en tout qui distribuent des affiches un peu partout dans le département, dans les secteurs du Sésame, dans les pharmacies, les médecins, pour avoir une visibilité pour les familles qui sont quand même perturbés, bouleversés par ces maladies psychiques qui surviennent parfois brutalement.
Alors c'est pareil, ce sont des proches qui des fois ne peuvent ne pas voir qu'ils sont dans le besoin de parler, de s'unir pour...
Tout à fait.
Comment l'intégration se passe?
Alors, on a quelquefois deux types de familles. On a des familles qui sont dans la réalité, qui observent bien qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Et puis, il y a aussi des familles qui sont dans le déni. Alors, quelquefois, ce ne sont pas directement les familles, mais c'est des gens périphériques qui peuvent prendre contact. Le plus difficile, c'est toujours le déni de la famille et puis, malheureusement, le déni de la personne qui est malade aussi.
Vous proposez, du coup, des activités, Adrien Jacot, qui acquiesce... Peut-être un mot à rajouter sur...
J'acquiesce parce que je suis d'accord et que c'est vrai que le déni, qu'il soit d'un côté ou de l'autre, c'est juste qu'on partage pas une réalité commune. Mmh. Et vouloir imposer sa réalité à quelqu'un, c'est pas toujours facile. Ce que je disais tout à l'heure, faut déjà partir un peu de la réalité de l'autre, mais des fois c'est un long chemin. Et heureusement qu'on a des gens comme à l'UNAFAM pour nous aider aussi là-dedans, quoi. C'est important, évidemment.
Un long chemin que vous faites tous ensemble, oui.
Voilà, c'est un chemin. Moi, je dirais que c'est un parcours complexe. On a besoin de lanternes et c'est vrai que en étant assez partenaire avec le CESAM et puis la mairie d'Angers et tout, on essaie quand même d'avancer positivement tous ensemble pour que chaque situation de chaque famille puisse s'améliorer.
Donc ça, c'est du côté des proches. Si maintenant on s'intéresse du côté des personnes qui vivent un trouble psychique, donc Émilie, l'Inclusion 49 et Oxygène, qui sont des GEM, des groupements d'entraide mutuelle.
Voilà, pour Oxygem, c'est un groupe d'entraide mutuelle. Et Inclusion 49, c'est une association loi 1901 qui, en fait, a comme support les cafés inclusifs.
Alors, les cafés inclusifs, qu'est-ce que c'est, justement?
Alors, sur Angers, en tout cas, Inclusion 49, nous appelons ça des sensibilicafés.
Okay.
Voilà, ce sont des cafés qui sont tenus par des personnes en situation de souffrance psychique. Ou non, au fond, parce que dans l'association, tout le monde est mélangé. Tenir un bar et servir permet de reprendre confiance en soi, par exemple. Ce sont des bars et des cafés ouverts à tous. Donc voilà, l'objectif, c'est de sensibiliser le grand public et de déstigmatiser, rassurer au fond d'être en contact avec des personnes en souffrance psychique. Voilà, c'est de rassurer.
Oui, parce que
les, en fait, beaucoup, c'est très tabou, voilà. En fait. Les gens ont peur, donc voilà. Et Oxygem, l'association donc d'adhérents. Là, par contre, il n'y a pas de personnes non concernées. Voilà, a pour but d'ouvrir ces actions sur la cité pour que les personnes en situation de souffrance psychique ne soient pas qu'entre elles et qu'il y ait des passerelles en fait. et des ponts entre les groupements de personnes concernées et la société et tout le monde.
Et ce qui était très intéressant dans ce que tu as dit tout à l'heure pour parler de ces gènes, c'est que c'est vraiment une inclusion, c'est qu'on intègre pas. Nous, c'est Adrien Jacot, je sais plus. C'est pas de l'intégration devenez normal, ouais. Normaux, mais bah, vous êtes comme vous êtes et on a le droit d'être ce qu'on est finalement.
Voilà, sans être jugé ni étiqueté, on peut voilà être en situation de souffrance psychique, mais on a tous des compétences, des qualités, on a tous le droit au lien social, à avoir une place dans cette société, même si ça passe pas par le travail, parce que notre société nous définit souvent. Malheureusement, par notre fonction comme des agents de production, je dirais, je suis désolée, mais je trouve qu'on est défini par notre travail et qu'un être humain ne se définit pas que par son activité professionnelle. Voilà, on peut avoir une place sociale et même une place tout court, exister sans forcément exister à travers un travail.
Adrien ?
Oui, en fait, je me rends compte en t'écoutant que dans la déstigmatisation, il y a aussi la démystification. Et que, voilà, c'est important aussi. On disait tout à l'heure qu'il y avait des troubles psychiques qui étaient très discrets dans leur expression. Donc, c'est compliqué de dire après qu'on sait tout de suite les repérer, que ça se voit, que c'est bruyant. Eh bien non, voilà, on est quand même tous des êtres humains à part entière. Et donc, c'est important, je répète que c'est important de vivre ensemble. Et on entend bien là qu'il y a, il y a vraiment des démarches qui sont hyper intéressantes pour aller dans ce sens-là.
Et justement, alors Bérangère, si vous pouvez reprendre le micro que Adrien avait actuellement. Au niveau de la direction santé publique Angers, j'allais dire santé publique France par habitude avec contexte oui. Covid et tout, mais à Angers, oui. Est-ce que vous avez un rôle? Et si oui, comment vous coordonnez ces différentes actions entre les associations, l'UNAFAM par exemple, les dispositifs du Sésame? Est-ce que vous avez un rôle dans tout ça?
Comment répondre à cette question? On a effectivement, quand je disais qu'on a deux actions de travail, l'un qui consiste à travailler, à accompagner et aider les personnes en situation de souffrance psychique. Je disais qu'à côté de cette action-là, on avait aussi celle d'être un acteur de la promotion de la santé mentale. Alors, dire qu'on coordonne, ça me paraît... pas juste, puisque les autres ne nous attendent pas pour coordonner leurs actions. En revanche, à chaque fois qu'on observe un besoin sur le territoire dans le champ de la santé mentale, effectivement, le fait qu'à la fois on soit un acteur de l'accompagnement et du soin, et à la fois un acteur de promotion de la santé mentale, ça fait qu'on a une bonne connaissance des acteurs et des lieux ressources, et à chaque fois qu'on repère un besoin, un projet à mener dans le champ de la santé mentale, on va effectivement peut-être initier, faciliter la rencontre avec l'ensemble de ces acteurs pour porter des projets ensemble. Et le collectif organisateur des semaines d'info en santé mentale en est un exemple.
Adrien, je pose la question parce que je ne l'ai pas posée, peut-être que ça me paraissait évident, mais peut-être que les auditeurs, c'est un peu moins évident pour eux. Pour les adolescents, c'est DSA, ça fait partie du Sésame. Le Sésame, c'est quoi? C'est quelle structure, quelle entité sur le territoire?
Alors, le Sésame, c'est le centre hospitalier spécialisé, c'est-à-dire l'hôpital psychiatrique, comme on l'appelait avant, qui concerne le territoire angevin et au large. Donc, ça va jusqu'à Segré, Baugé, Saint-Georges-sur-Loire.
Sur tout le département, quasiment.
Non, justement. Non. Pas Cholet et pas Saumur, qui ont leur propre CHS.
Les Mauges. Ça, voilà. C'est les irrésistibles gaulois. Françoise Dufour, par rapport aux semaines d'information sur la santé mentale qui est organisée par votre collectif, l'UNAFAM a des attentes peut-être?
Notre attente, c'est le lien d'abord avec les partenaires, et puis c'est de rendre visible l'association. Et bon, c'est vrai que dans la thématique de cette année, dans cette lettre numérique, c'est vrai que nous, on a mis à disposition de tout le monde une plaquette, par exemple, sur le droit et la famille par rapport à la situation de la maladie psychique, quoi. Donc l'attente, c'est de se rendre visible tous et puis d'aller dans le même sens pour la déstigmatisation, pour tous ces projets aussi d'inclusion, pour changer les représentations. On est sur la même plateforme que tout le monde, quoi, pour justement casser le tabou qu'on a connu il y a des dizaines d'années sur la maladie mentale ou psychique, et que aucune famille, mais encore maintenant, n'osait dire mon enfant ou mon mari ou ma
très
femme.
Tabou,
voilà, il y a des gens qui se cachent, il y a des gens même qui n'en parlent pas, et le problème il est là. Donc il faut faire sauter ces barrières là.
Bon, une heure ne sera pas suffisante pour donner la parole et s'intéresser à tout. Bérangère, dernière.
Je voudrais juste préciser que cette lettre numérique, elle est disponible sur le site de la ville d'Angers, sur le Facebook SISM 49 également, et puis on espère que de nombreux partenaires la relayeront.
Alors, je vais laisser le mot de la conclusion à Émilie, puisque tu veux prendre la parole, vas-y.
Oui, je voulais vous dire que la ressourcerie des biscottes organise une ressourcerie éphémère dans le quartier de la Roseraie, où justement les sensibilités café d'inclusion 49 seront présents début octobre jusqu'au 18 décembre, je crois. Donc voilà, et je voulais vous remercier tous et toutes d'avoir écouté cette émission et d'avoir l'ouverture aussi de comprendre la particularité des troubles psychiques.
Merci beaucoup, merci à tous et à toutes d'avoir témoigné.
18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
Tout autre sujet, chaque mercredi, la Dalle Angevine nous présente un ou une sportive angevine qui fait l'actualité ou l'histoire d'un club.
La Minute des Dalleux par la Dalle Angevine.
Bienvenue dans l'épisode 3 de la Minute des Dalleux. Cette semaine, nous allons vous parler de notre nouvelle lauréate, Pauline Frélon, qui a marqué ce week-end l'histoire de nos projets sportifs. Présente à Trégnac pour les trois dernières manches de la Coupe du Monde, notre nouvelle lauréate a terminé première du classement général en kayak descente de rivière. Sur le toit du monde, la licenciée de la Team ESAC marque ainsi l'histoire de l'association en devenant la première lauréate à conquérir un titre international. Revenons justement sur les exploits de nos lauréats. Lauréate en 2017, la nageuse paralympique Claire Supiot avait conquis le titre européen sur 50 mètres nage libre S8 à Dublin, et au niveau mondial, la médaille de bronze à Londres sur le 100 mètres nage libre. Amandine Brossier en athlétisme, Titouan de Galassus en roller slalom, Jean Havet en kayak ou encore Mathieu Rousselot en escrime fauteuil sont des lauréats qui ont déjà participé à des compétitions internationales, mais sans jamais atteindre la plus haute marche du podium. La médaille d'or de Pauline Frélon en Coupe du Monde marque donc un tournant dans l'histoire de nos lauréats, qui bénéficie d'un soutien financier, humain et médiatique de la part de la Dalle Angevine. Et pour aller chercher cette médaille d'or, Pauline a dû essuyer la déception des championnats du monde disputés quelques jours avant cette manche finale de Coupe du Monde. Une 7e place au goût amer pour la kayakiste. C'est donc une magnifique résilience, un super rebond pour Pauline qui n'a rien lâché. Sur un parcours qu'elle décrit comme une rivière de malades qui laisse des traces, que ce soit sur le kayak ou dans les souvenirs, pour se transcender dans les dernières énergies possibles. La Minute des Dalleux, c'est déjà terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Et grâce à Alex, le podcast de l'émission Topette est déjà disponible. Pour les semaines d'information sur la santé mentale 49, vous pouvez donc réécouter le podcast d'une part et entendre tous les soirs dans Topette jusqu'au 17 octobre les podcasts réalisés par le collectif que nous venons d'accueillir. Demain, Topette reçoit... Surprise, je ne sais pas encore. Tout de suite, en tout cas, c'est l'Europe dans le micro, suivi des programmes habituels Quasar, Sons of Blues et Harvest. Allez, prenez soin de vous, écoutez bien le 101.5 FM et Topette. We'll be right back.
say my name. Heisenberg. You're goddamn right.
Salut, bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission Info Culture, un mercredi sur deux sur Radio G. Salut Seb.
Salut Seb, salut Pablo.
Salut Seb, j'espère que vous allez bien.
Oui, ça va, alors on fait un petit bisou à Anaïs.
Oui, et bisous à Anaïs. Anaïs qui n'est pas là, mais qui est dans nos pensées.
Mais bien sûr.
Voilà.
Alors ce soir, on va parler...
Et bonjour à tous les auditeurs.
Bien sûr. On va parler de musique, de cinéma, de théâtre, de bande dessinée, de musique, tout ce qu'on aime, quoi.
Exact, comme d'habitude.
Comme d'habitude, tous les 15 jours sur Radio G. Et on va démarrer avec une petite musique de film, hein. C'est la musique d'un James Bond, puisque le nouveau James Bond vient de sortir, sort aujourd'hui,
voilà, il était en avant-première hier, donc...
On va en parler dans l'émission.
No Time to Die, on va en parler. Et voilà, donc aujourd'hui c'est une petite coloration de James Bond en musique.
Ah oui, on va écouter plusieurs musiques de film, parce qu'on connaît tous le générique.
Exact.
Bon. Mais là, c'est pas ça. C'est que pour chaque James Bond, on a un petit, tube.
Un petit tube, oui, tout à fait.
Mais ouais, parce qu'en fait, si on regarde bien, les réalisateurs de James Bond ont chaque fois, en fait, accompagné l'actualité musicale et souvent en prenant les groupes ou les artistes qui étaient en vogue et qui allaient leur produire.
Récemment, c'était Billie Eilish, par exemple. Voilà. Mais dans les années 80, c'était Duran Duran.
Exactement.
Et puis, et dans les années 70, c'était Paul McCartney avec Live and Let Die. Bah oui.
Ça, c'est moi.
Choix de Seb.
Dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
5.5, la radio qui fait point.